peut pas dire que c'était un soulèvement laïque. La bonne raison qu'en Syrie, la laïcité n'existe pas. Nous avions des manifestations dans le sud de la Syrie contre le régime qui apparaissaient comme laïques parce que dans le sud de la Syrie, on est à 99% sunnites. En revanche, lorsqu'on regardait ce qui se passait dans les villes comme Banias, Latakié ou Homs, là, on avait clairement en fait un soulèvement communautaire, c'est-à-dire la population sunnite de ces villes qui se rebellait contre un pouvoir jugé alaouite pour des postes dominés par les alaouites. Le communautarisme, c'est quelque chose qui structure la société syrienne, qui est manipulée par le pouvoir, mais pas seulement. On ne peut pas dire que le communautarisme est né avec le conflit ou qu'il a seulement été instrumentalisé ou manipulé ou créé par le régime syrien. Le conflit religieux, il est venu beaucoup plus tard, avec l'arrivée en fait des djihadistes sunnites et de volontaires chiites irakiens ou du Hezbollah, c'est-à-dire à peu près un an et demi, deux ans plus tard.
En l'état actuel des choses, comment qualifier ce conflit civil? Est-ce que d'ailleurs on peut parler même d'un conflit strictement civil, ou bien on est en face d'un conflit qui s'est internationalisé, ou en tout cas qui est le jouet de deux puissances étrangères?
Ce conflit est extrêmement complexe. Au départ, on pouvait le qualifier de révolte sociale, parce qu'on avait d'énormes problèmes socio-économiques en Syrie, et qui touchaient évidemment davantage les Arabes sunnites pauvres des campagnes et des périphéries. Un conflit communautaire, comme nous l'avons expliqué, un conflit politique face à la dictature. Donc on a, je dirais, ces trois strates du conflit syrien en interne. Et très rapidement, ce conflit a été rattrapé par la géopolitique régionale, c'est-à-dire l'opposition Iran-Arabie Saoudite, avec le jeu du Qatar, qui a essayé de s'affirmer sur la scène régionale dès le départ du conflit. Dès les premiers mois, nous avions un soutien extérieur à la rébellion syrienne, à partir de Tripoli du Liban, où les cellules salafistes mises en place par l'Arabie Saoudite ont apporté de l'aide militaire aux rebelles. C'est pour ça notamment que la ville de Homs s'est soulevée. Homs était une ville extrêmement tranquille, rien à voir avec Hama, sa voisine. C'était étonnant qu'elle se soulève à ce point-là, mais c'était l'influence de l'extérieur qui a permis de jeter de l'huile sur le feu. Et puis à partir de 2012, on a eu le Hezbollah libanais sous l'influence de l'Iran qui est venu prêter main forte au régime syrien parce qu'il était en difficulté, il ne parvenait pas à gérer ce phénomène de guerre civile, de guérilla auquel il était confronté, alors que le Hezbollah, lui, est justement passé maître dans l'art de la guérilla et de la contre-insurrection.
Les Occidentaux, dans ce conflit, ont donné l'impression un peu de cafouiller, de ne pas vraiment saisir ce qui se passait exactement en Syrie. Dans quel état, selon vous, se trouve la diplomatie occidentale par rapport à ce conflit syrien ?
Une erreur d'analyse dès le départ, pensant que le régime allait tomber en 3 mois, 6 mois. Ils étaient influencés par l'opposition syrienne qui prenait ses désirs pour des réalités. Ils n'ont pas une bonne compréhension justement de la société syrienne, des ressorts du communautarisme, de la solidité du pouvoir syrien. Ça, c'était clair dès le départ. Ils ont sous-estimé également la capacité des Russes et des Iraniens à soutenir ce régime. Et puis, ils ont surestimé la capacité de l'opposition à pouvoir s'unir. Donc, effectivement, les Occidentaux se sont retrouvés très rapidement dans une impasse, soutenant le Conseil national syrien pour ensuite soutenir la coalition nationale syrienne, qui n'en finissent pas de se déchirer et de montrer leur incapacité à représenter une alternative politique. Quant aux rebelles syriens, eh bien, on a créé l'armée syrienne libre, et puis très rapidement, elle a été dépassée par des mouvements islamistes, aujourd'hui des mouvements qui se battent entre eux, et là encore, impossibilité pour les Occidentaux d'arriver à structurer cette armée de rebelles syriens éclatée à peu près en 2000 groupes combattants, avec la main d'Al-Qaïda qui est de plus en plus présente. Alors aujourd'hui, évidemment, que faire? Les États-Unis sont sans doute les plus pragmatiques dans cette histoire, puisque Barack Obama réfléchit justement à un changement de position sur la Syrie, maintien du régime. Ils ont encore du mal à accepter que Bachar el-Assad reste en place. Et beaucoup de rapports provenant de think tank à Washington montrent que la chute du régime n'est plus aussi inéluctable qu'on le pensait. Par conséquent, on sent qu'il y a une inflexion sur la Syrie. On ne veut pas que la Syrie devienne un État failli, comme la Somalie ou l'Afghanistan. Et finalement, on va finir par se résoudre à laisser ce régime en place et Bachar el-Assad, puisqu'il est la clé de voûte du système. Pour les Français, c'est un peu plus difficile à accepter. parce que nous sommes très en pointe contre le régime d'Assad, donc c'est difficile de faire un virage complet comme les États-Unis. Et puis nous sommes tenus aussi par nos liens, nos contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite, qui elle veut vraiment poursuivre le combat contre le régime d'Assad, quoi qu'il arrive, même si ça doit faire exploser la région. Et vu que c'est notre premier client en matière d'armement, eh bien nous avons du mal à changer de position. Mais je pense que, en tout cas j'espère que nos diplomates ont compris que le régime de toute façon allait rester en place et que ça ne servait à rien de continuer à acheter de l'huile.